la nature commence à se venger. Nous venons d'enregistrer un recul de la banquise arctique exceptionnel, comme on ne l'a jamais relevé dans l'histoire. Quelles sont les conséquences? Le glacier du Groenland, c'est 5 fois la France. Il a en son centre 3000 mètres d'épaisseur. J'ai étudié ce glacier du Groenland dans le très grand nord, lorsque, avec mon camarade inuit Gutikitok, en traîneau-chien, nous avons parcouru le pôle géomagnétique, nous avons découvert que ce glacier était sec. Ça veut dire qu'il était en équilibre. Et si le déséquilibre apparaît, alors l'accélération de la déglaciation va se faire. Donc la Terre est menacée sur le plan de sa structure. Et il est 30 ans que l'on n'entende plus les climato-sceptiques. Il est grand temps que l'écologie soit un devoir. C'est pas gouvernemental, c'est onusien. Il n'y aura pas d'écologie dans le Grand Nord si les peuples ne sont pas associés à cette révolution écologique.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
À 98 ans, le géographe Jean Mallory est loin d'avoir baissé les bras. Infatigable lanceur d'alerte sur l'état de la planète et la nécessité de préserver le Groenland et les pôles de l'avidité des hommes blancs, cet explorateur intrépide est un trésor national, comme diraient les Japonais. En 1955, l'apparition de son premier livre sur les derniers rois de Thulé a marqué la création de la magnifique collection Terre humaine qu'il voulait ouverte aux minorités et aux récits de vie du monde entier, et dans laquelle, depuis, les plus grands savants et intellectuels s'honorent d'être publiés. Aujourd'hui, Mallory est le héros d'une passionnante bande dessinée signée Pierre Macquiot et Frédéric Biel, publiée chez Delcourt. C'est le récit, précisément documenté par l'explorateur lui-même, de son premier séjour chez les populations du Nord Groenland durant une année en 1950 et 1951. Mallory n'a alors que 28 ans. Il est seul, sans matériel et ne parle pas la langue des Inuits. Durant ce long et terrible premier hiver, on le suit pas à pas dans ce qui apparaît comme une épreuve initiatique aboutissant à la renaissance d'un homme. Ce livre, Mallory, l'appel de Thulé, par-delà l'histoire incroyable d'un exploit hors norme, nous rappelle l'enjeu vital qui se joue dans ces terres, hélas, de moins en moins glacées. Bonsoir Pierre Macquiot.
Bonsoir.
Alors, en digne enfant des années Spirou, vous ne pouviez être qu'attiré par les exploits moraux, physiques, spirituels, j'allais dire, d'un aventurier hors pair. Mais comment êtes-vous tombé et sur cette histoire de Mallory? Comment êtes-vous parvenu à faire ce livre dont nous allons parler aujourd'hui?
Oui, spirituel pour le moins. Effectivement, c'est Guy Delcourt, mon éditeur et ami, qui m'a téléphoné un jour en disant « Est-ce que tu connais Jean Mallory ?» Alors évidemment, je connaissais, j'avais lu les Rois de Thulé, mais une vingtaine d'années auparavant. Je connaissais la collection Terres humaines. J'avais lu aussi, j'avais été passionné par les chroniques des Indiens Guayaki de Pierre Clastres, le célèbre aussi Pierre Jacquet et Zélias, le Cheval d'Orgueil, etc.
Et donc, puis les Tristes Tropiques.
Voilà, Triste Tropique
de
Lévi-Strauss. Donc, je connaissais tout ça, mais oui, Jean Mallory, je me dis oui, je connais, oui, je suis passionné par cette idée, etc. Mais bon, on le rencontre quand? 4 jours après. Donc, ok, d'accord. Donc, je me suis précipité.
C'est une star très accessible, c'est vrai.
oui. Donc, je me suis précipité dans une librairie pour acheter son dernier livre qui effectivement s'appelle Lettre à un Inuit de l'an 2022. Que j'ai donc dévoré en 3-4 jours. Et alors c'est drôle parce que oui, on parle de spiritualité, on va parler de la pensée cosmologique des Inuits, etc. Il s'avère que dans ce registre assez spirituel, je suis passionné moi par tout ce qui est synchronicité spirituelle aussi, comme je vais le dire. Et donc dans ce livre, Jean Mallory faisait référence à plusieurs reprises à Jacques Brosse. notamment un livre qui s'appelle Les grandes personnes, etc. Alors je lui dis, j'arrive à lui dire, parce qu'il est passionnant, il a énormément de choses à raconter, donc j'ai réussi à l'interrompre à un moment donné, parce qu'on a passé 3 heures la première fois avec Guy Delcourt, chez lui. Et je lui dis, mais vous citez Jacques Brosse à plusieurs reprises, vous le connaissiez? Il dit, oui, c'était un ami. Je dis, ah bon, écoutez, c'est très étonnant parce que je suis moi-même ami avec Jacques Brosse et c'est Jacques Brosse qui est aussi écrivain mais moine zen, qui m'a initié au zen et j'ai pratiqué pendant 6 ans avec lui, etc. Il dit, ah bon, très bien, vous êtes l'homme de la situation. Je dis donc, bon, j'ai senti que j'étais adoubé en poursuivant la conversation, à un moment donné, je lui dis aussi, mais oui, j'étais passionné par cette histoire par la pensée cosmologique des Inuits, etc. Et je trouve qu'il y a un rapport avec ce qu'on appelle dans la pensée zen l'esprit vaste, l'esprit d'unité auquel nous sommes tous reliés, etc. Et je dis donc, c'est effectivement quelque chose qui m'intéresse de traiter. Il dit, alors là, vous m'êtes très sympathique.
Alors c'est pour ça, sans doute aussi, Pierre Macquiot, que vous avez choisi de raconter ce livre à la première personne. Parce que ça, c'est un choix qui est rare aussi dans les bandes dessinées où il y a quand même un héros qui se promène et on est à l'extérieur. Là, tout d'un coup, Jean Mallory s'exprime par votre intermédiaire, celui de Frédéric Biel, le dessinateur, à la première personne. C'était un désir qu'il a exprimé ou c'est vous qui avez pensé qu'il était important, comme vous avez travaillé grâce à ses archives, de le mettre au centre de
Écoutez,
ce récit?
Non, il nous a rien demandé de précis. Il était plutôt inquiet sur le dessin. Parce qu'il est assez classique au niveau de la facture de la bande dessinée. Donc il dit, je veux quelque chose de réaliste quand même, etc. Donc il était très inquiet par rapport à ça. Mais sinon, il ne m'a rien demandé. Mais en revanche, quand je me suis retrouvé devant la masse de documentation, 31 expéditions en Arctique, les derniers rois de Thulé, 800 pages, Amok 1, 2 et 3, 300 pages, l'allée des baleines, etc. Toute cette masse d'informations, je dis, mais comment faire une bande dessinée avec ça, déjà? Deuxième point, comment faire en sorte que cette bande dessinée ait une sorte de minimum de dramaturgie suffisante pour intéresser le lecteur? Donc j'avoue avoir été un peu découragé à plusieurs reprises. J'ai même failli abandonner parce que c'était trop compliqué, comment faire, quoi, etc. Et j'ai commencé à étudier l'idée de centraliser ce récit à partir de sa toute première expédition, parce qu'elle est assez fondatrice de ce qu'il est devenu, de son œuvre. En même temps, c'est une aventure humaine, c'est presque une aventure initiatique, les rencontres avec les chamans, les chamans, comme il dit lui-même, son espèce de dépression au départ. Donc j'ai choisi cette espèce d'optique de d'écrire une aventure, sa première aventure, et ensuite de greffer sur cette aventure toutes sortes d'informations propres à son œuvre.
Mais d'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de penser au mythe grec, mais presque à l'Odyssée, parce que c'est au fond, à travers cette histoire, cette première expédition qui va fonder aussi la vie entière de Mallory, on voit un homme seul qui rencontre des civilisations pour lui quasi inconnues, qui affronte des choses qui le dépassent. C'est vraiment Ulysse sur la banquise.
Carrément, oui. Ouais. Oui. Non, c'est ce qui m'a fasciné d'ailleurs, parce que des grands explorateurs comme ça, on en connaît plus tellement. Donc, d'ailleurs, c'était assez impressionnant de le rencontrer. Ce qui m'a fasciné aussi, évidemment, c'est la connexion spirituelle avec ma pratique personnelle. Donc, d'une certaine manière, j'ai déjà eu cette synchronicité avec Jacques Brosse. J'aime bien les synchronicités parce qu'elles indiquent un chemin, finalement, sans être trop mystique par ailleurs. Et comme je disais, en cherchant les prémices de la de cette histoire, comment la raconter, etc., etc., j'ai failli abandonner plusieurs fois. Et pour ne rien vous cacher, moi qui suis intéressé par évidemment la pratique spirituelle, etc., j'ai eu une expérience tout à fait édifiante avec le travail lui-même, quoi. C'est-à-dire que Jean Mallory, quand il est arrivé au tout début dans le Grand Nord, dans l'extrême Nord, comme il dit, sur Apalik, il était le seul Français là. Et Il est resté quelque temps sous une tente, il savait pas trop ce qu'il allait faire, etc. Et à un moment donné, on l'a convoqué, en quelque sorte, parce qu'il y avait un chaman qui était là, Outaak, qui voulait le rencontrer. Parce que ce chaman avait une sorte de préscience déjà de ce que Jean Mallory allait être par rapport à la civilisation et la culture inuite. Et donc il l'a rencontré, etc. Or, c'est très étrange parce que, bon, cette rencontre, elle était déterminante pour Jean Mallory parce que d'une certaine manière, il y a un avant et un après pour lui. La rencontre avec Outaak, il l'explique très bien et je l'ai retranscrit dans la bande dessinée. Il dit, j'ai l'impression en face de lui d'avoir été passé au scanner, comme si il parlait à des esprits, il parlait à des conseillers, il voyait l'avenir, il voyait tout ce qui allait se passer, etc., etc. Ce qui est drôle, c'est qu'il s'avère que, pour le coup, j'étais en train de travailler cette histoire à ce moment-là. J'ai eu un problème de santé assez particulier. J'ai pris des médicaments avec un petit peu de morphine dedans. Et une nuit, alors que j'étais en train de travailler sur ce sujet, j'ai fait moi-même une sorte de, je mets des guillemets évidemment, de rêve initiatique. Mais c'était carrément très étrange, c'est-à-dire que, pour moi, il y a eu un avant et un après dans ce travail. C'est-à-dire que j'étais présent, j'étais dans le Groenland, j'avais une vision circulaire à 360 degrés, et j'ai le sentiment, c'est difficile à expliquer, et je veux pas paraître trop mystique en quelque sorte, mais j'avais le sentiment d'être présent au moment où il a rencontré Outaak. J'étais là, et je me suis moi-même posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et il y a une voix qui m'a dit, tu es là parce que tu travailles sur le projet. Et c'est vrai que c'est étrange parce que après, tout le travail a été facilité pour moi. J'ai travaillé sans difficulté, j'ai plus aucun doute, etc. Donc, c'est pour moi, cette histoire, elle est un peu hors norme parce qu'elle a été une aventure aussi, quoi.
Alors, cette bande dessinée dont nous parlons sur Jean Mallory, L'Appel de Tulé, le point de départ de la bande dessinée comme de la carrière importante de Mallory dans le Grand Nord, c'est 1950. Il est en plein Sahara, il fait sa deuxième mission en solitaire et il va recevoir une autorisation qu'il attend depuis longtemps, c'est celle du Danemark, qui l'autorise à se rendre dans ces territoires où les Occidentaux ne sont pas souvent les bienvenus. Le 23 juillet, il va débarquer chez les Inuits. Il se retrouve ensuite devant 302 Esquimaux polaires et il raconte, c'est en 2018, il revient sur cette aventure en 50-51 quand il raconte ce qui s'est passé pour lui.
En 50-51, je suis sans crédit, sans matériel, seul, absolument seul. C'est ce qui m'a sauvé. Et ça a été une immersion difficile. J'ai eu 3 mois très, très cruels. C'est pas une dépression du tout. Je ne veux pas du tout revenir dans le sud. Les Inuits me méprisent. Mais qu'est-ce que c'est que cet homme qui ne sait pas ce qu'il veut? Donc, je vis ce que j'appelle le Géborun, une descente qui pourrait être aux enfers. Non. Je suis en train d'être enceinte de moi-même, le vrai Jean Mallory, que je ne connaissais pas. Et les Inuits me l'ont dit. Tu es jeune, j'avais pourtant 28 ans. J'avais fait de la résistance. J'avais été compagnon des expéditions polaires. Non, les Inuits m'avaient dit. Tu n'es pas encore un homme complet. On va te l'apprendre. Et c'est ainsi que, au cours de ces 3 mois, ce Mallory inconnu, paléolithique, a dû faire un voyage initiatique que je ne comprends toujours pas.
C'est intéressant d'écouter Mallory parler de cette expérience initiatique qu'il a vécue en 50-51. Il dit bien, c'était un homme pragmatique, c'est un savant, il avait les deux pieds sur terre. Or, il dit toujours que ce qui s'est passé là-bas, et c'est aussi l'axe de votre livre dont nous parlons aujourd'hui, Pierre Macchiot, c'est... Quelque chose a changé, quelque chose de l'ordre du spirituel et qui a déterminé toute la suite de son existence. Mais comme quand on voit un homard quitter sa carapace et attendre d'en avoir une autre, il s'est passé pour lui ce qu'il dit. Alors il dit pas dépression, mais il dit descente aux enfers. Et vous le racontez très bien, c'est absolument passionnant de voir au début cet homme enfermé dans la nuit polaire, dans une cabane très inconfortable, avec des Inuits dont il ne comprend pas la langue. Il est seul, il a pas de matériel. Et tout d'un coup, quelque chose va se passer. Il va perdre sa carapace précédente et il va... au fil du temps, apprendre à vivre une autre vie.
Oui, c'est effectivement ce qui m'a passionné aussi. C'est le principe d'une initiation. Moi, j'ai toujours été passionné par les initiations, évidemment, notamment les initiations égyptiennes, où à chaque initiation, le postulant changeait, comme on dit, de niveau vibratoire, et donc il changeait de nom puisque le nom était la qualification de son niveau vibratoire finalement. Et en même temps, ça reste assez mystérieux. Qu'est-ce que ça veut dire changer de niveau vibratoire? On perçoit les choses différemment, mais comment les perçoit-on? Il se pose la question à un moment donné. Les Inuits, comment pensent-ils? Comment se structurent-ils? Quelle est leur vision du monde, etc. Et ça, il n'en a aucune idée au départ. Donc, lorsqu'il arrive, et d'ailleurs, il associe plus ou moins cette espèce de descente aux enfers. Il se pose des questions par rapport à ça. Il se demande si ça n'a pas un rapport avec sa rencontre avec Utaak. Il dit, j'ai l'impression d'avoir été inuitisé ou chamanisé. Et il se demande si c'est le cas, finalement. Donc, ça ressemble à ça, en tout cas. C'est-à-dire que il a trouvé ce qu'il était parti chercher, en fait. Il est scientifique, il est géographe, il a toutes les qualifications qu'on connaît, anthropologue, géomorphologue, etc., géocryologue.
Les Inuits l'appellent tout de suite l'homme qui parle aux pierres.
L'homme qui parle aux pierres, oui. Oui, parce que il est aussi éboulologue. C'est-à-dire, c'est une...
Il travaille dans les éboulis
oui,
glaciaires.
Oui, c'est une discipline qu'il a créée lui-même. C'est-à-dire que il est géomorphologue de formation et donc il a étudié il a dit je vais commencer par le commencement, et il a étudié ces éboulis de pierres, de glace, dont il prétend qu'ils sont des structures vivantes qui ont une vie, une naissance et une mort, qu'on peut étudier, et ensuite il a découvert que ces pierres sont animées par une sorte, comment il appelait ça, une énergie indomptable, comme disent les Inuits eux-mêmes. Qui est le feu sacré, le feu de la terre, qui est le feu qui a créé toute chose. À un moment donné, il aura une rencontre avec un autre chaman qui va lui dire, qui va prendre une poignée de sable devant lui, qui va la serrer et dit voilà, ce qui fait que cette poignée de sable devient une pierre, c'est le feu sacré du Nuna, c'est-à-dire le Nuna, c'est le mont terrestre qui préexistait et qui s'est libéré lorsque la mer primordiale s'est retirée. Donc il commence à entrer dans une sorte de registre de pensée qui est auquel il est un peu étranger de par sa formation scientifique finalement. Et cette première initiation a pour but, d'une certaine mesure, on peut le penser, de casser tout le moule de ses formations, de ce qu'il appelle lui-même les sciences dures justement. On parle de pierre, on parle de sciences dures. Ces sciences dures, il a dû les briser un peu pour peu à peu comprendre ce que va être la pensée justement inuite, ce qu'il a appelé la pensée sauvage, leur cosmologie, etc., etc. Donc ça a été c'est un peu étrange parce que d'une certaine manière il est parti là-bas pour faire une sorte de mission scientifique et un peu comme dans l'alchimie où on dit que le but ultime de l'alchimie c'est pas la transformation de la pierre, c'est la transformation de l'alchimiste lui-même. Là il s'avère qu'il s'est effectivement transformé lui-même, quoi.
Well, if you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Please see for me if her hair hangs long, if it rolls and flows all down her breast. Please see for me if her hair hangs long. That's the way we remember her best. Well, if you go when the snowflakes don't. When the rivers freeze and the summer ends, please see if she's wearing a coat so warm to keep her from howling winds. I am wondering if she remembers me at all. Many times I often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my days. So if you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to a one who lives there. She once was a true love of mine.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Pierre Macchio, vous signez le scénario de ce Mallory, l'appel de Tulé, publié chez Delcourt, dont nous parlons avec vous ce soir. Et alors que vous avez déjà publié vous-même des BD où vous dessinez aussi, pourquoi est-ce qu'il a fallu faire appel à Frédéric Biel? Vous étiez trop écroulé sous la masse de documentation, il fallait se partager le travail?
Oui, d'une part, et d'autre part, je ne dessine pratiquement plus. Je trouve que les dessins, c'est trop difficile, finalement.
C'est trop difficile.
Ah, mais les gens ignorent à quel point le travail du dessin est difficile. C'est pour bien dessiner, une bande dessinée, c'est long. C'est un travail de miniaturiste, finalement. Il faut être en forme physique, en forme financière. Il faut aucun problème. Il faut avoir une énergie pure tout le temps. Non, c'est très difficile, le dessin. C'est très difficile. On peut pas dessiner si on est un peu fatigué, finalement, quoi. Non, entre autres, bon, et... je trouve que la profession, j'ai eu la chance de pouvoir faire les deux métiers, dessinateur et scénariste, mais à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Je trouve que toute l'énergie qu'on met dans le dessin ou dans le scénario, on le met pas dans l'autre discipline, et donc ça ne se ressemble pas finalement, parce que le travail du scénario, c'est une sorte d'investigation, c'est une sorte d'obsession, c'est un travail très spécial, le travail d'écriture d'un scénario, alors que le dessin, ça s'étend dans le temps, etc. Et c'est deux métiers aussi différents que trompettiste ou boulanger finalement. Et je pense pas qu'on puisse faire les deux travaux de aussi bien. Donc à un moment donné, j'ai préféré le
faire.
Mais
alors du coup, Frédéric Biel devait attendre que vous lui donniez, il a pas attendu quand même la totalité
non,
du scénario,
non,
vous
non,
lui
non.
donniez, parce qu'il travaillait, on vous a entendu au début de l'émission dire que pour Jean Mallory, il fallait que les dessins soient réalistes,
oui.
Donc il vous donnait les photos qu'il avait prises, donc il fallait que les visages ressemblent au vrai visage.
C'était assez difficile, et en réalité c'était assez difficile parce que j'ai fait le scénario d'abord. J'avais besoin d'aller jusqu'au bout de l'écriture, du scénario, écrit, dialogué, etc., pour pouvoir me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire, vu que j'avais pas mal hésité et douté. Ensuite, il s'agit de trouver un dessinateur. Personnellement, j'ai hésité entre plusieurs dessinateurs, mais au bout du compte, j'ai repensé à Frédéric Biel, qui est, pour moi, qui était le dessinateur pour cette histoire, parce que c'est pas une histoire banale. Il fallait quelqu'un qui puisse intérioriser toutes ces choses. Frédéric Biel, c'est un dessinateur, mais c'est un intellectuel en même temps. Il est infusé à France Culture, lui. Donc, je me disais, lui, il va être passionné par ça. Il va faire des recherches, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Mais il a fallu attendre qu'il soit libre. Il est en train de terminer une autre histoire, etc. Il pensait en faire une autre, mais finalement, une nouvelle belle synchronicité, ce projet a été annulé, donc il s'est retrouvé libre, et il a été amené à faire le livre. Et ça a été un choix judicieux, parce qu'il a été passé 4 heures avec Jean Mallory, il est sorti complètement enthousiaste, béat d'admiration, avec des photos, des documents, des choses personnelles, etc. Et il a adoré faire ce travail, finalement. Quoi.
Alors, on voit évidemment tous les visages et les personnalités des différents Inuits qui traversent l'histoire de Jean Mallory, cette première expédition dans le Grand Nord. Mais il y a des personnages qui sont pour lui essentiels, et d'ailleurs, ils tiennent une grande, grande place dans votre livre. Frédéric Biel les a dessinés avec leur vrai nom et leur personnalité, ce sont les chiens de Jean Mallory.
Le chien a été incontestablement mon compagnon le plus intime. Ceci va si vrai que lorsque par la suite, la chaîne, il y a toujours une chaîne, dans un attache j'avais 12 chiens, et qui comprenaient, je ne parlais que la langue esquimaude. On ne marche pas au fouet, nous ne sommes pas au cirque, c'est pas à la parole. Une relation. Et cette chienne, Picouli, a eu quelques chevaux, une dizaine de chevaux. Nous sommes au printemps, et je suis maintenant intégré au groupe. Or, ces chevaux, elle est venue sous ma tente, elle les a mis contre moi, et elle s'est couchée réellement comme une, je dirais-je, une épouse, la patte sur mon bas-ventre. Et papa, qui était dehors, assistait à cette manifestation, comme si j'étais le père de ces chevaux. Papa va être mon maître, deuxième chaman. Il a tout compris. Vous savez, les Inuits ont relation avec l'animal qui est essentiel. Et ceci est dans les mythes. Et dans une de ces légendes, un chien, je dirais, saute. Une femelle, plus ou moins humaine, c'est ainsi qu'est né l'homme. Le chien est le père des hommes.
Voilà, le chien est le père des hommes. On se rend compte d'ailleurs qu'au fond, les chiens ont sauvé la vie de Jean Mallory, parce que là, c'est le cœur de cette bande dessinée dont nous parlons avec vous, Pierre Macchio. Il y a cette traversée vers le pôle magnétique qui est une épreuve physique et morale absolument terrifiante. Donc Jean Mallory est sorti de cette dépression et il va faire cette expédition et il part seul avec ses chiens. Et les chiens le remettent sur la piste des autres Inuits qui l'ont précédé, parce qu'il est seul. Et c'est extraordinaire. Et quand il parle de pas à pas, la tête de la meute de chiens, il en parle comme d'un humain. Enfin, c'est quelqu'un de très très important et avec lequel il communiquait, d'âme à âme presque.
Oui, c'est le moment où il commence à devenir Inuit lui-même, quoi. C'est-à-dire, il commence effectivement à comprendre. C'est vrai que les Inuits ont un lien. C'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour nous qui sommes, notre pensée, elle est conditionnée, elle est bétonnée par rapport à un certain nombre de données sociologiques, psychologiques, etc., même psychanalytiques. Eux, ils ont un esprit ouvert qui est complètement différent du nôtre et on a du mal à imaginer de quoi il s'agit. Le lien charnel, spirituel qu'ils ont avec les animaux, on peut pas comprendre ce lien. Et lui, il a commencé à le comprendre sur le vif, finalement, parce que effectivement, après sa dépression, quand il a découvert que les Inuits ne sont pas comme nous. Comme il le dit lui-même, l'Inuit n'est pas un Sherpa. Il n'est pas là pour m'aider, pour me rendre service ou pour m'être agréable. D'une certaine manière, il me dit, il s'en fout de cet homme blanc qui vient faire son truc là, etc. Il ne sait pas ce qu'il vient faire là au départ, etc. Et l'Inuit, par nature, il est dans la survie, il est en lien avec plein de choses, etc. Il a pas que ça à faire, finalement. Donc, il a tout appris lui-même et c'est ce qui lui a sauvé la vie aussi. Son initiation était aussi une obligation à apprendre comment monter le traîneau, comment atteler les chiens, comment les nourrir, comment diriger le traîneau, etc. Et certes, quand il a su faire tout ça, il a su qu'il y avait une expédition qui se préparait. Il a voulu partir à leur suite. En Suisse, il veut dire ça va pas être très compliqué. Je vais suivre
les
traces, etc. Et puis voilà, tranquille, etc. Dans la nuit polaire. Et Il a oublié que dans la nuit polaire, il y a des choses comme des tempêtes de neige qui ont effacé toutes les traces. Et à un moment donné, il s'est trouvé complètement perdu. Et là aussi, le lien qu'il a avec les chiens, ils savent quand le maître est perdu. Donc, ils essayent de l'aider dans la mesure où ils peuvent le faire, mais s'ils peuvent pas, ils ne peuvent pas, quoi. Donc là, cette fois-ci, comme je l'expliquais dans la bande dessinée, il était sauvé par une petite lueur qui apparaît. C'était le groupe lointain de quelqu'un qui avait allumé une pipe, finalement. Il a été sauvé par ça, quoi. Ouais. Donc je trouve ça fascinant parce que c'est toutes les données de l'initiation, quoi. C'est-à-dire, dans la vraie initiation, l'initié se met en danger. Dans les initiations égyptiennes, il y a des initiés qui mouraient, en fait, quoi. C'était pas une partie de plaisir, c'était une vraie métamorphose, une vraie transformation. Et c'est ça aussi qui est passionnant dans l'aventure de Mallory. C'est à la fois une aventure scientifique, une aventure humaine, mais c'est aussi une aventure spirituelle, finalement. Et le lien avec Pa'apa, évidemment, j'allais dire presque Pa'apa, justement, il va l'apprendre et ce chien va l'éduquer comme lui va être éduqué à l'ensemble de toutes ces données qu'il ignore pour le moment, quoi.
Alors, une autre piste intéressante aussi que vous racontez dans votre livre, Pierre Macchio, c'est ce qui s'est passé avec les femmes. Parce que, alors, Mallory dit bien que d'abord l'importance a été sa rencontre avec le chaman, l'importance des chiens, quelques amitiés qu'il a fini par tisser quand il a commencé à devenir un homme selon les critères des Inuits, mais aussi les femmes qui l'ont habillé, parce qu'elles trouvaient qu'il n'était pas habillé pour ce grand froid.
Et il n'était pas équipé. Ouais,
voilà. Ouais. Et puis surtout, il va commencer à leur rendre service. On va l'écouter, il raconte comment il s'est mis, en fait, il est devenu une sorte de scribe au service des Inuits.
Comme ils sont très pragmatiques, après 2-3 semaines, ils se sont dit, ce jeune homme, j'avais 26 ans, il faut qu'il nous serve. Alors, ils m'ont fait savoir qu'ils avaient un grand problème. Le grand problème, c'est que ce petit groupe de 70 familles totalement désolées ne se renouvelait que très difficilement. 16% des femmes n'avaient pas d'enfants, étaient stériles. Ça les préoccupait. Alors ils m'ont dit, que faire? Je leur ai dit, il n'y a qu'une voie, c'est faire la généalogie. Donc je suis devenu leur secrétaire. Et pendant tout l'hiver, en traîneau à chien, nous sommes allés de d'igloo en igloo, interrogeant les grands-mères, les mères, les cousins croisés, et nous avons découvert qu'en effet, leur règle instinctive, qui était d'empêcher les unions au-dessous du cinquième degré, devait être encore plus sévère. En fait, un jeune homme, n'a le choix qu'entre deux femmes. Et c'est pas une femme que vous allez prendre, c'est eux qui la proposent de façon, dans un groupe, d'annihiler le pouvoir que les uns et les autres ont. Car en fait, je suis déjà dans une société communaliste, pour ne pas dire communiste, égalitariste. Et pour que ça soit égalitariste, il faut briser la famille.
En fait, Jean Mallory a fait son travail de scientifique, de géologue, mais il a fait aussi un travail de véritable anthropologue, puisqu'il a décrypté ce système d'alliances très particulier des tribus inuites, et il les a aidés à régler ce problème de la fécondité.
Oui, il a fait des études démographiques assez poussées, finalement. Il avait son petit, je crois me rappeler, il avait son petit carnet vert, où il a commencé à investiguer, à interroger tous les gens défilés dans sa petite hutte pour donner toutes les leurs données familiales, etc. Bon, il a été beaucoup aidé dans ce sens par Kutsikitsok, le fils du chaman Utaak, comme Utaak lui avait promis d'ailleurs. Et à partir de toutes ces données, il en a construit des systèmes très cohérents, etc., pour leur proposer d'échapper justement à tous les problèmes liés à la consanguinité. Oui, il a fait un travail. Je ne sais pas s'il l'avait prévu au départ. Toujours est-il qu'il s'est avéré qu'il a été mis en face de cette difficulté, et ça a été aussi un moyen pour lui d'entrer encore un peu plus au sein de la communauté inuite, de se faire accepter encore un peu plus. Et là, il a commencé à devenir vraiment un inuit à part entière à ce moment-là.
En tout cas, on voit bien que ce combat qui remonte donc à l'année 50-51 est en fait pas du tout terminé pour Jean Mallory. D'ailleurs, à la fin de votre livre, Pierre Macchio, vous remettez des documents qui sont actuels, c'est-à-dire les photos de ce qui se passe en ce moment dans le Grand Nord. Et surtout, Mallory lance un appel contre l'avidité des Occidentaux, une fois de plus, qui veulent, qui déjà ont installé beaucoup d'Inuits dans des immeubles, donc détruisent les liens, la façon de vivre de ces populations. Et puis surtout, ils veulent sonder le sous-sol et s'emparer.
Oui, c'est le grand problème qu'il avait prévu d'entrée de jeu. Il en parle beaucoup dans son livre « Lettre à un Inuit » de l'an 2022. Il le dit clairement, « Peuple du Grand Nord, résistez à... il le dit, on a besoin de votre sagesse. » Il dit que la sagesse spirituelle des Inuits peut... comment il dit ? Je crois qu'il dit elle peut guérir la santé spirituelle de l'humanité tout entière. Donc il pense vraiment que le Grand Nord possède quelque chose dont on a encore besoin et qui risque d'être détruit encore un peu plus dans cette atmosphère de dépression écologique finalement. Donc on voit bien, Trump a voulu acheter le Groenland tout entier, donc c'est une catastrophe finalement. Donc il avait prévu ça, et je pense même que Outaac l'avait prévu aussi, et que Outaac a misé sur Jean Mallory pour pouvoir éventuellement ou empêcher ce phénomène, ou limiter les dégâts et les conséquences de ce phénomène. Quoi.
Mais quand on voit les photos que vous publiez à la fin du livre, c'est effrayant. Alors on se dit en même temps qui on est pour dire que vivre dans des immeubles qui ressemblent à des grands HLM, qui ont été construits pour les Inuits, que c'est pas bien, parce qu'au fond, peut-être que les femmes et les enfants ont besoin de chaleur et de confort. C'est très compliqué.
Malheureusement, tous les peuples premiers au contact de la civilisation se dégradent. C'était pareil pour les Indiens d'Amazonie, c'est pour les aborigènes, etc. C'est toujours la même catastrophe humanitaire, en quelque sorte. Et c'était malheureusement inscrit. Donc, il a créé beaucoup de choses, Jean Mallory, des instituts. Il y a une école ou une université qui a été créée à Saint-Pétersbourg avec les Russes, etc. Pour instruire les générations suivantes d'Inuits, pour que eux-mêmes, même s'il y a une déperdition de toutes ces valeurs, etc., retrouvent à la fois quelque chose de scientifique en eux, construisent une dimension scientifique, mais ne perdent pas leur essence animiste ou chamanique, etc., et qu'ils arrivent à prendre leur destin en main. Il a fait énormément de choses, de conférences, de livres, etc., dans cet unique but de faire en sorte que les Inuits puissent, malgré une période de transition difficile, être à même après de reprendre leur destin en main, finalement.
Alors, ce livre dont nous avons parlé avec vous, Pierre Macchio, s'appelle Mallory, l'appel de Tulé. Il vient de paraître aux éditions Delcourt. Et en fait, j'ai presque envie de vous demander, mais c'est un tome 1, parce que Mallory, c'est inépuisable comme mine d'histoire.
J'ai eu tellement de difficultés à faire ce tome 1, je suis pas sûr de pouvoir faire un tome 2. Quoi.
Ah, il faudrait, peut-être avec une autre équipe, qui sait. En tout cas, merci à vous, Pierre Macchio, d'être venu nous en parler. Au revoir. Nous nous retrouverons la semaine prochaine aux environs de 19h20. Et bien sûr, après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Xavier Le Herpeur pour une heure en série. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.